Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
Nouvel entretien du pape François avec un journaliste italien ce dimanche. Le pape nous parle de son prochain voyage en Terre Sainte, du marxisme et de la pauvreté, des réformes en cours au Vatican, mais aussi du cardinalat des femmes et des divorcés remariés. Lors de l'Angélus place Saint-Pierre, c'est de l'Avent qu'il nous a parlé de ce troisième dimanche, le dimanche de la joie. L'Église, a déclaré le pape, est la maison de la joie. Cette semaine, François a été élu l'homme de l'année 2013 par Time Magazine. L'occasion de s'interroger sur l'effet François. Nous retrouverons enfin Sœur Catherine Aubin et son invité du dimanche, Dominique Lambert, un physicien mais aussi philosophe, et ce n'est pas tout, un homme obsédé par la question du sens. Le pape François nous a donc offert ce dimanche un nouvel entretien surprise avec un journaliste dans les colonnes du quotidien italien La Stampa. Le pape y aborde tour à tour le sens de la fête de Noël, le futur voyage en Terre Sainte, la faim dans le monde, le marxisme, la réforme de la curie, le cardinalat des femmes, la transparence financière du Vatican, mais aussi les divorcés remariés. Sur quelques-uns des sujets abordés, le compte-rendu de Manuela Fidji.
Nous ne pouvons penser à Noël sans penser à la Terre Sainte, déclare le pape. Il y a 50 ans, Paul VI a eu le courage de se rendre là et c'est ainsi que commença l'époque des voyages des papes. Moi aussi, je désire m'y rendre et d'ajouter, nous nous y préparons. Le pape confirme aussi son désir de rencontrer Bartholomée, patriarche de Constantinople, pour commémorer avec lui cet anniversaire en renouvelant l'étreinte entre Paul VI et Athénagoras de 1964 à Jérusalem. Durant la nuit de Noël, je pense surtout aux chrétiens qui vivent là, à ceux qui sont dans la difficulté, à tous ceux qui ont été contraints, pour divers problèmes, à quitter cette terre.
Alors Manuela, le pape François est-il marxiste ?
Le pape François, interrogé par Andrea Tornielli, assure qu'il ne s'est pas senti offensé par l'accusation lancée dans les milieux ultraconservateurs du Tea Party américain. Mais il tient à préciser, l'idéologie marxiste est erronée, même si dans ma vie j'ai connu beaucoup de marxistes très bien en tant que personne. Quant aux paroles fortes exprimées dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium contre l'économie qui tue, le pape rappelle que dans l'exhortation ne se trouve rien qui ne se retrouve dans la doctrine sociale de l'Église. Je n'ai pas parlé en tant qu'expert, j'ai cherché de présenter une photographie de ce qui arrive. François fait remarquer que son unique citation spécifique concerne les théories de la retombée favorable, selon lesquelles toute croissance économique favorisée par le libre marché réussit à produire de par elle-même une plus grande équité et moins d'exclusion sociale dans le monde. Il y avait la promesse que lorsque le verre serait à moitié plein, il aurait débordé et les pauvres en auraient bénéficié. Malheureusement, souligne le pape François, quand le verre est plein, comme par enchantement, il s'agrandit et de la sorte, il n'en sort jamais rien pour les pauvres. Je le répète, je n'ai pas parlé en expert, mais selon la doctrine sociale de l'Église, et cela, a ajouté le pape, ne signifie pas être marxiste.
Dans cet entretien, il est aussi question des rapports entre Église et politique.
Le rapport entre l'Église et la politique doit être tout à la fois parallèle et convergent. Et il explique, parallèle parce que chacun a sa route et ses diverses tâches, convergent seulement dans le fait d'aider le peuple. En effet, souligne François, quand les rapports convergent sans le peuple, ou en se moquant du peuple, alors commence cette union avec le pouvoir politique qui finit par pourrir l'Église, les affaires, les compromis. Il faut procéder parallèlement, chacun avec sa propre méthode, ses tâches particulières, sa propre vocation, convergeant seulement dans le bien commun. Pour le reste, le pape François souligne que la politique est noble, que c'est l'une des formes les plus hautes de la charité. Nous la salissons quand nous l'utilisons pour faire des affaires et la relation entre l'Église et le pouvoir politique peut être corrompue si elle ne converge pas seulement dans le bien commun.
Et le pape ne rechigne pas non plus à aborder le chapitre des réformes financières au Vatican. Les commissions mises en place sont en train de bien travailler. Moneval a établi un rapport favorable à notre égard. Nous sommes sur la bonne voie. Le pape ajoute, sur l'avenir de l'IOR, l'Institut pour les œuvres de religion, on verra. Le pape, dans le même entretien, aborde la question du cardinalat pour les femmes. Une affaire qui sort de je ne sais où, déclare-t-il. Les femmes dans l'Église doivent être valorisées et non pas cléricalisées. Et ceux qui pensent au cardinalat pour les femmes souffrent un peu de cléricalisme. Le pape parle aussi du conseil des 8 cardinaux pour la réforme de la curie. Le travail, explique-t-il, est long. Le pape François révèle alors qu'un cardinal âgé lui a déclaré « La réforme de la curie, vous l'avez déjà commencé avec la messe quotidienne à Sainte-Marthe. » Et cela m'a fait penser que toute réforme commence toujours par des initiatives spirituelles et pastorales avant tout changement structurel. Autre sujet qui a déjà fait couler beaucoup d'encre aussi, les divorcés remariés. L'exclusion de la communion pour les divorcés qui vivent une seconde union n'est pas une sanction. Il faut le rappeler, tient à souligner le pape François, la question du journaliste sur les attentes à ce sujet, ajoutant « Ce thème, je n'en ai pas parlé dans l'exhortation apostolique » et le pape ajoute « La synodalité dans l'Église est importante et du mariage dans son ensemble. Nous discuterons donc lors des réunions du consistoire en février. Ensuite, le thème sera affronté durant le synode extraordinaire d'octobre 2014 et encore durant le synode ordinaire de l'année suivante. Dans ces instances, de nombreux thèmes seront approfondis et éclaircis. Le pape admet la nécessité que sur des thèmes aussi délicats, la prudence reste de mise. » Et c'est bien évidemment au troisième dimanche de l'Avent que le pape François a consacré sa catéchèse lors de l'Angélus de ce dimanche, appelé aussi dimanche de la joie. Il s'agit pour nous de nous réjouir dans le Seigneur, a-t-il dit. Le message chrétien s'appelle évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle, une annonce de joie pour le peuple tout entier. L'Église n'est pas un refuge pour personne triste, l'Église est la maison de la joie. Puis, après la récitation de la prière mariale de l'Angélus, alors que la pluie se mettait à tomber, le pape François a salué le courage des fidèles et s'est dit « Désolé, je suis avec vous », a-t-il lancé depuis le palais apostolique avant de bénir les statuettes de l'enfant Jésus que brandissaient des centaines d'enfants de Rome réunis sur la place, selon une tradition bien établie chaque année. Cette semaine, le pape François a donc été élu l'homme de l'année 2013 par Time Magazine, l'occasion de s'interroger sur l'effet François. Est-il mesurable ? Répondre à cette question, c'est prendre bien sûr le risque d'être partial et incomplet, 7 mois seulement après l'élection du pape argentin. Pourtant, les faits sont là, des choses ont changé, et en Italie notamment, le nouveau pape a ramené des gens dans les églises. C'est ce que révèle une étude menée par le Centre pour l'étude des nouvelles religions. En avril et en octobre, ce centre de recherche a lancé un questionnaire auprès de plusieurs centaines de prêtres de la péninsule, la moitié notant une fréquentation en hausse de leur église. Ces chiffres sont certes réalisés à petite échelle, mais révèlent une tendance claire. L'effet François est là. Massimo Introvigne est le directeur de ce centre, donc du Césenur. Il nous répond.
On peut dire que grosso modo, dans la moitié des communautés catholiques, le prêtre note cet effet François en tant qu'effet de retour. Et la question portait précisément sur un effet de retour de gens qui mentionnent le pape François comme raison de leur retour à l'Église et retour notamment à la confession.
Est-ce que cet effet François peut être un phénomène durable ?
Je pense que le pape François lui-même, sans mentionner évidemment son rôle personnel, mais a apporté des précisions dans la rencontre qu'il a eue avec le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation au mois d'octobre. Il a dit que l'annonce de l'évangile de la miséricorde se révèle assez persuasif par nos contemporaines, mais qu'il ne s'agit que d'une première annonce qui peut en effet amener quelques-uns dans les églises, mais cela dit, tout dépend de qu'est-ce qu'ils vont trouver dans les églises, comment ils seront accueillis et si les communautés chrétiennes composées de prêtres religieux, religieuses et laïcs seront capables de leur offrir ce qu'ils cherchent. Donc le pape ne peut pas tout faire tout seul, mais il dépend beaucoup de comment les communautés catholiques seront capables de comprendre ce phénomène et de se mettre en mouvement un peu dans la même direction.
Des propos recueillis par Olivier Bonnel. Et pour la seconde partie de ce magazine, place à Sœur Catherine Aubin et son invité du dimanche. L'invité est une sorte de phénomène qui est à la fois physicien attiré par la biologie, la cosmologie et les mathématiques. Il est aussi philosophe intéressé par l'épistémologie et l'éthique. Et il est aussi théologien. Il s'appelle Dominique Lambert, il est belge. Après une licence en physique théorique, il décroche une licence en philosophie et fait ensuite un doctorat de sciences physiques avant d'obtenir un autre doctorat en philosophie en 1996. Il a reçu de nombreux prix. Il est aujourd'hui professeur à l'université de Namur, aux facultés des sciences et en faculté de philosophie. Dans ce premier volet, Catherine Aubin l'interroge sur son parcours. Comment, depuis l'adolescence, la question du sens a toujours été au cœur de ses études et de ses recherches.
Thank you. Est-ce qu'on peut dire, Dominique Lambert, que vous êtes un peu une forme de personne un peu atypique, dans le sens que vous êtes à la fois physicien, attiré par la biologie, la cosmologie, les mathématiques, et aussi attiré par les questions de l'homme? On sent que tout ce qui est humain vous intéresse, vous intéressez à la philosophie, à l'éthique et à la théologie. D'où cela vous vient-il?
Je peux dire que ça me vient peut-être de ma formation initiale et des rencontres que j'ai pu faire, peut-être même de ma famille dans laquelle on discutait aussi bien de questions scientifiques que de questions religieuses. Mais j'ai eu la chance de rencontrer à la fois des professeurs qui m'ont donné le goût des sciences. Donc très tôt, j'avais cet intérêt pour les sciences de la nature, mais aussi j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs qui m'ont ouvert à cette dimension philosophique. Pour moi, je pense que je conçois ou je ne conçois pas finalement ma vie intellectuelle sans ces deux composantes. D'une certaine manière, parce que les questions que l'on rencontre en sciences, quand on regarde, quand on explore la nature, quand on explore même les mathématiques, des tas de questions viennent qui, dans le fond, débordent très rapidement le champ des sciences elles-mêmes. Les sciences suscitent, dans le fond, inévitablement des tas de questions que les sciences elles-mêmes ne peuvent résoudre, non pas parce qu'elles ne sont pas assez puissantes, mais parce que méthodologiquement, ces questions sortent du cadre des sciences. Je prends un exemple, bien entendu, on connaît les questions qui viennent directement des questions éthiques. À partir du moment où vous travaillez sur des questions sur le génome humain ou des questions si vous travaillez sur l'homme, inévitablement, bien entendu, se pose la question de sa dignité. Mais la question de la dignité humaine n'appartient pas directement à la biologie. Mais la biologie suscite des questions qui touchent à la dignité de l'homme. Une autre question, la question des fondements de l'existence. Qu'est-ce qui fait que le monde existe, etc. Ce sont des questions. Bien sûr, le physicien va aller très loin dans la description de ce qui existe. Mais pourquoi cela existe-t-il? Quelle est la source de l'être? Ça, c'est une question suscitée par la science, mais qui déborde inévitablement le champ scientifique. Et donc, pour moi, c'est cette articulation entre des questions venant des sciences, mais débordant les sciences, et cette rencontre avec la philosophie qui peut éclairer ces questions.
Et lorsqu'on vous entend, Dominique Lambert, on sent que aussi bien le domaine de la physique et des sciences pose la question du sens aussi bien que la philosophie et la théologie.
Mmh. Oui, moi je pense qu'on ne peut pas dégager totalement la question du sens, la question des fondements, la question des valeurs de la science elle-même. On ne peut pas simplement juxtaposer une pratique scientifique qui serait complètement neutre d'un point de vue philosophique. On ne peut pas juxtaposer cette démarche à une philosophie a priori qui n'aurait rien à voir avec un fondement naturel. Je pense que ce serait dommageable et pour la philosophie et pour les sciences. Je pense que déjà les sciences sont porteuses d'une charge philosophique. Comment penser à un cosmologiste qui ne réfléchirait pas au sens de l'existence du monde, au fondement du réel? Non, les scientifiques, d'une certaine manière, sont déjà des philosophes, mais la science ne leur donne pas la philosophie complète, d'une certaine manière. Ce sont des philosophes en attente d'une réponse philosophique. Donc pour moi, j'éviterais de plaquer une philosophie a priori sur une démarche scientifique et j'éviterais de vider la science de toute charge philosophique.
Dominique Lambert, est-ce que vous avez toujours marché de cette façon-là? Est-ce qu'il y a eu un moment où ça s'est concrétisé de telle sorte que vous avez marché sur les deux pieds, science et philosophie, biologie et théologie? Vous pourriez nous dire comment ça s'est passé dans votre parcours?
Très tôt, la chance, j'ai eu la grâce d'avoir cette foi qui m'a été transmise par ma famille. Mais à un certain moment, au début de mon enseignement secondaire, cette foi n'allait pas de pair avec une sorte de réflexion. Donc je découvrais les sciences. En même temps, j'avais cette foi de mon enfance et je découvrais les sciences avec émerveillement, etc. mais aucune articulation ne se faisait. Alors le premier moment qui a joué un rôle important, c'est un professeur de l'enseignement secondaire qui nous a fait découvrir la philosophie de saint Thomas et qui le faisait dans le cadre d'un cours de religion. Et il posait un certain nombre de questions, pourrait-on dire théologiques, mais avec la volonté de donner une articulation rationnelle à ces questions. Et pour moi, ça a été un émerveillement. Donc je me suis rendu compte à ce moment-là, grâce à lui, qu'on pouvait poser des questions de type théologique avec la même rigueur que ce que l'on m'imposait dans les cours de sciences. Et ça ne m'a jamais quitté. Alors bien entendu, je n'ai pas eu l'occasion, durant l'enseignement secondaire et dans les premières années d'université, vraiment d'approfondir les questions philosophiques jusqu'au moment où j'ai eu l'occasion de commencer vraiment des études de philosophie. Et ça s'est passé pendant que je faisais ma licence, ou on dirait aujourd'hui ma maîtrise, en physique. Et là, c'est la rencontre avec le philosophe Jean Ladrière, qui lui-même était un croyant très profond, qui avait fait la philosophie, mais qui était aussi un mathématicien, qui avait beaucoup réfléchi à la question de l'articulation du sens, etc., et qui m'a marqué et qui m'a encouragé à continuer dans le sens d'une recherche à la fois scientifique, mais aussi philosophique. Et tout en continuant mon doctorat en physique théorique, j'ai continué donc ma formation en philosophie, et c'est effectivement Jean Ladrière qui m'a incité à continuer un doctorat en philosophie. À partir d'un certain moment de ma formation, j'ai fait des allers-retours entre la faculté des sciences et la philosophie, et ça ne m'a jamais quitté. C'est vrai que, avant tout ça, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui, très tôt, m'avait fait lire Théard de Chardin, tout en ayant lui-même une formation qui était aussi thomiste. Donc il m'a, d'une certaine manière, introduit à une lecture d'un grand auteur qui se posait les questions science et foi. Et avec le recul, je pense que ça a joué aussi. Mais je ne l'ai découvert finalement qu'après. On ne se rend compte qu'après de ces moments qui nous ont marqués. Je ne pourrais pas me passer de ces deux aspects. Et ces deux aspects nourrissent aussi ma réflexion théologique.
Dominique Lambert, parmi vos champs de recherche, il y a un champ de recherche que vous affectionnez particulièrement, qui est le robot. Qu'est-ce que l'homme au milieu, justement, de cette recherche sur le robot et sur le cyborg ?
Le cyborg, c'est finalement l'homme robotisé, c'est l'homme augmenté, prolongé par des méthodes de la robotique. Et l'autre champ, c'est le robot auquel on tente de donner des caractéristiques humaines. Alors ces deux champs sont présents aujourd'hui dans la technologie, avec des aspects positifs et négatifs. L'aspect positif de l'homme augmenté, c'est la possibilité éventuellement, par les prothèses, par des implants, de permettre à des personnes handicapées de retrouver de la mobilité, leur faculté, etc. Et d'autre part, le robot auquel on donne des caractéristiques qui approcheraient celles de l'humain, on pourrait dire, peuvent jouer un rôle dans le cadre de l'assistance, des robots d'assistance à des personnes. Maintenant, il y a des limites à cela, bien entendu.
Il y a des questions philosophiques et des questions existentielles quant à la place de l'homme, même dans l'univers.
Alors, cette question m'intéresse d'une certaine manière parce que ces deux courants, par contraste, font apparaître ce qui est la nature de l'homme. Par exemple, bien entendu, dans le cyborg, il y a l'idée de l'homme qui crée une technologie pour, disons, alléger son travail, pour remédier à des problèmes de santé, etc. Il y a cet aspect de maîtrise, de créativité. Mais dans la mesure où on augmente tellement l'homme que, dans le fond, l'homme disparaît sous la technologie, où on poursuit seulement l'idée d'une maîtrise totale, ou d'une certaine manière, on pourrait penser à un fantasme de puissance, de surpuissance, grâce à l'augmentation de l'homme. Alors, dans le fond, on sent l'homme diminuer. Parce que si l'homme est, bien sûr, capacité de maîtrise, de créativité, d'innovation, l'homme se voit dans la capacité de renoncer à la puissance, à la maîtrise, etc. On dira qu'une attitude est humaine quand, justement, on peut mettre un frein à la puissance. Il y a, dans le fond, dans l'homme, cette coexistence de cette capacité de maîtrise et cette capacité de renoncer à la maîtrise pour faire place aux vulnérables, aux fragiles, à la faiblesse.
Et nous retrouverons Philippe Lambert la semaine prochaine pour sa réflexion sur le sens de l'homme dans ses recherches sur le robot et le cyborg. Ainsi prend fin ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va et sur Facebook à Radio Vatican en français. On se retrouve demain, où que vous soyez.